Donc le dimanche dernier, nous avons fait une introduction quand même de l'Épître aux Galates. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le vif du sujet avec les 9 premiers versets. Mais avant tout, il est important qu'on puisse rappeler quand même ce qu'on a pu voir peut-être en quelques 3 lignes sur Galates la dernière fois. Et j'ai pu recenser quelques éléments que je vais dire. Notamment, le livre de Galates, ce n'est pas le judaïsme du christianisme. Parce qu'on a vu que pendant que Paul annonçait la foi, annonçait le salut par la grâce, de faux docteurs s'introduisaient pour ajouter à la grâce la loi, des éléments de la loi pour avoir le salut. Nous avions parlé aussi des fondements de la réforme. Nous avions vu que le livre de Galates quand même fait ressortir quelques fondements qui ont été la base de la réforme, notamment la foi, la grâce et la permanence du salut. Et le livre de Galates évoque aussi la liberté du chrétien. Et nous avons aussi fait ressortir, je dirais, la différence entre les chrétiens de Galates et puis ceux de Corinthe. Donc, généralement, au niveau des chrétiens de Galates, le problème fondamental était un problème de doctrine. Tandis que chez les Corinthiens, le problème fondamental, c'était leur vie personnelle. Ce n'était pas un problème de doctrine, mais c'était l'obéissance, c'était leur vie personnelle reliée au Seigneur. Tandis qu'au livre de Galates, dans le livre de Galates, c'est un problème de doctrine. Alors, donc, il parle de doctrine, au fait, nous amène à peut-être nous éloigner de ce que Dieu veut pour nous. Parce que c'est la doctrine qui va nous perdre, c'est la doctrine qui va nous éloigner de Dieu, qui va nous éloigner des fondamentaux de notre foi chrétienne. Et c'est sur ça que Paul insiste auprès des Galates. Donc nous allons rentrer de façon tranquille dans les versets au fur et à mesure pour couvrir tout le livre de Galates. Amen.
Amen.
Ok. Donc ce matin, la première leçon, au chapitre 1, du verset 1 au verset 9, que nous allons lire ensemble, Galates chapitre 1.
Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.
Amen.
Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il n'y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème.
Amen.
Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.
Amen. Amen. Donc, ce sont ces 9 versets que nous allons voir ensemble. Et nous allons les voir à 2 niveaux. Donc, une première partie où sont les salutations de Paul, c'est-à-dire du verset 1 au verset 5. Et puis la deuxième partie où il insiste un peu sur les faux docteurs. Et on voit dans la salutation de Paul qu'il met l'accent sur, au verset 1, il met l'accent sur son autorité. Au verset 4, il met l'accent sur son message. Et toujours au verset 4 aussi, la raison pour laquelle il parle. OK? Mais Paul, dans ces circonstances, au fait, se voit opposé, je dirais, aux judaïsants, comme on l'a vu la dernière fois. Et le livre des Galates, pratiquement, avait été écrit à des personnes qui pratiquaient la religion juive, mais peut-être converties. Mais suite à leur conversion, vont vouloir ajouter à la base fondamentale qui leur a été annoncée ou enseignée d'autres éléments pour espérer être sauvés. Donc, ces judaïsants-là vont se lever contre peut-être l'autorité de Paul et vont mettre en cause même l'autorité de Paul et son apostolat, disons. Donc, les éléments pour lesquels Paul, avant de commencer, donc dans ses salutations, va préciser cela. Et je voudrais savoir ici, Paul, il parle et il annonce, il dit qu'il est apôtre. Mais la définition d'apôtre en tant que tel, parce que généralement, les judaïsants vont parler d'apôtre ou toute personne va parler d'apôtre pour quelqu'un qui a marché avec le Seigneur, qui a vu le Seigneur en tant que tel, à qui le Seigneur a donné un mandat officiel, comme il a fait aux disciples. au 12, il leur a donné un mandat officiel. Et Paul n'a pas eu ce mandat officiel là de Christ en tant que tel. Il n'a pas marché avec lui comme cela. Et pour eux, Paul ne serait peut-être pas apôtre. Il ne peut pas parler, il ne peut pas enseigner en tant qu'apôtre. Okay? Il ne peut pas parler, il ne peut pas enseigner en tant qu'apôtre. Alors, donc, je voudrais qu'on puisse regarder un peu ensemble ce que c'est que la définition d'apôtre. Est-ce que Paul était un apôtre ou pas? Le verset 1 nous dit, il dit, « Paul, apôtre non seulement des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. » Donc là, il pose son apostolat, là, son ministère. Et ici, lorsqu'il fait ressortir ces éléments, il montre effectivement qu'il n'est pas appelé par un homme, mais il est apôtre de Dieu, il est apôtre de Jésus-Christ. Il est apôtre de Jésus-Christ. Allez, pour ceux qui s'opposent à Paul, il était un usurpateur de titres. Il était un usurpateur de titres. Un faux apôtre n'ayant aucune autorité pour enseigner et diriger les églises. Examinons ensemble le titre d'apôtre. Lorsqu'on, quelqu'un peut nous lire Luc 6, versets 12 à 13, et puis Marc 3, verset 14. Luc 6, 12 à 13.
Dans cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela 7 disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux qu'il nomma apôtres.
Ok, donc il choisit 12 parmi ses disciples qu'il nomma apôtres. Marc 3, verset 14.
Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher.
Donc il établit 12 et puis les envoyer prêcher. Or, Paul, il se déclare apôtre. Après Paul, on va voir, de nos jours, il y a des multitudes d'apôtres. Qui est apôtre, enfin? Donc, Christ qui choisit 12, il leur donne un mandat spécial. Donc, un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé après avoir reçu un mandat spécial. Donc, il a reçu un mandat spécial de la part du Seigneur. Donc, il est un messager qui a été choisi et formé par Jésus-Christ pour proclamer sa vérité. Mais c'était durant la formation de l'Église. Premièrement, choisi par Jésus lui-même. Et deuxièmement, il va avec un mandat. Troisièmement, avoir vu Jésus après sa résurrection. Acte 1, verset 22. Donc, il fallait qu'un autre prenne la charge de Judas après la trahison et tout cela. Il fallait qu'un autre prenne sa charge. Mais pourquoi Paul donc commence ici sa lettre en mettant en avant son autorité d'apôtre et son appel? Parce que lorsqu'on regarde ces premiers éléments, Paul n'est pas apôtre. Ça, c'est la première conclusion qu'on pourrait tiré, on ne peut pas dire qu'il est apôtre parce qu'il n'a pas marché avec Jésus. Jésus ne l'a pas choisi directement. Il ne l'a pas vu. Donc, c'est-à-dire, je fais un ramassis de tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire, déjà, on peut lire, si on veut, sur le Acte 9, versets 3 à 5, où il nous parle effectivement de la rencontre de Paul à Damas, sur le chemin de Damas. Acte 9, 3 à 5. Donc, on voit ici, Paul présente, non seulement en défendant son ministère, comme j'ai dit, il était important qu'il défende son ministère. Et deuxièmement, il présente comment il a été appelé. C'est-à-dire, non seulement Jésus lui a apparu directement, il a reçu un mandat, comme on vient de le lire, et puis il y a eu l'approbation aussi des autres apôtres. Donc, ce sont ces éléments-là qu'il présente, c'est-à-dire pour montrer qu'il n'est pas un usurpateur de titres. C'est ce qui fait que nous disons que Paul est apôtre et Paul se dit apôtre. Donc, Paul est reconnu apôtre, effectivement, de Jésus-Christ. Et personne ayant reçu non seulement un appel de Jésus-Christ, ayant reçu un mandat de Jésus-Christ et ayant eu l'approbation aussi des disciples qui marchaient avec Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, pourquoi est-ce que, je vais dire dans les rues, dans des églises, on entend apôtre des personnes, des pasteurs ou des serviteurs de Dieu se disent apôtres? Est-ce que c'est normal? C'est un abus de langage? On pourrait dire que c'est un abus de langage. On pourrait dire que c'est par extension, ils se disent apôtres parce qu'effectivement, des fois, allant annoncer l'Évangile, établissant aussi des églises. Parce qu'il y a des personnes de renom qui s'appellent apôtres et qui établissent des églises au nom de Jésus-Christ où la parole de Dieu est prêchée. Maintenant, là où il y a le problème, peut-être c'est le titre. Donc, dans les premiers moments, je dirais à la base, fondamentalement, l'apôtre, ce sont ces éléments qu'on a cités là. Les autres apôtres, ceux qui vont s'appeler apôtres, on parlerait de pseudo peut-être concernant Matthias. Voilà, on ne peut pas intervenir en tant que tel pour dire qu'il a eu un ministère d'apôtre ou pas, parce qu'on sait que souvent quand ils allaient en mission, soit à deux, et puis, mais on n'a pas d'histoire par la suite concernant Matthias. Donc pourrait-on dire que Paul était un 13e apôtre? Ça, c'est une belle question à mettre dans la boîte à questions.
Bonjour.
Et voilà, donc on va tous réfléchir là-dessus. Est-ce que Paul était le 13e apôtre? Oups! On retient ça comme question. Paul était-il le 13e apôtre? Et puis on reviendra là-dessus. Bien, c'est bon?
Mais qu'est-ce que signifie exactement le terme apôtre? De précision, est-ce que c'est seulement envoyé?
Choisi
de Dieu, envoyé avec un mandat précis. Parce que, au fait, le terme apôtre aussi, c'est quand on regarde un peu les dons, quand on parle de dons spirituels, on voit que ça apparaît apôtre, docteur, prophète et tout ça. On parlera un peu plus long, on parlera du docteur aussi. Voilà. Donc, en fait, c'est un choix de Dieu sur la vie d'un individu. Voilà. Voilà pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de pseudo-apôtre. Mais nous, on reconnaît comme apôtre, effectivement, ce que la Bible nous dit, les caractéristiques qu'on a citées ici. Voilà. Donc, ceux qui vont s'appeler apôtres, ça, c'est peut-être une relation Dieu et ces personnes-là, mais nous, on va les considérer des pseudo-apôtres. Dans le cas de Paul ici, vu que Paul était persécuteur de l'Église, c'est-à-dire quand on vient te dire « Ah, mais Paul est converti, mais va le rencontrer », toi-même d'abord, tu hésites, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il faut avoir une conviction que Dieu te donne. Donc, c'est pour ça que le Seigneur rassure son serviteur qu'il peut aller, parce que cet homme sera un instrument entre ses mains. Voilà, cet homme sera un instrument entre ses mains. Maintenant, quant à la question, est-ce qu'un apôtre peut imposer les mains? Ça aussi, je vais mettre dans la boîte aux questions. Est-ce qu'un apôtre peut imposer les mains? Parce qu'effectivement, ça se voit aujourd'hui, on impose des mains et tout cela. Mais la Bible nous dit aussi de ne rien faire par précipitation, tandis que partout où on veut forcément nous imposer les mains. Et nous-mêmes qui allons pour qu'on nous impose les mains aussi. Voilà. Donc, il y a beaucoup de paramètres et tout cela. OK? C'est bon? Et quel est le message que Paul apporte ici? Après avoir situé son apostolat, quel est le message qu'il donne ici au verset 4, que Christ est mort pour nos péchés? Le verset 4 dit, « qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. » Donc, on voit ici, Paul est en train de rappeler aux Galates parce qu'ils avaient déjà entendu ce message. Et c'est ce message-là qui commençait par être biaisé ou transformé, peut-être par des judaïsants, que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Mais eux, ils vont dire, c'est vrai, peut-être. Jésus-Christ est venu pour nous sauver, mais pour être juste devant Dieu, il faut encore faire ça, faut poser des actes et tout cela, faut ajouter la loi à cela. Et donc, Paul rappelle ici, effectivement, aux Galates, les fondamentaux de notre foi chrétienne. Donc, ça, c'est le message qu'il présente ici aux Galates. Donc, la nature de l'Évangile, qui est la mort expiatoire de Jésus-Christ et sa résurrection. Donc, au cœur de l'Évangile, donc, se trouve Christ. Et lorsqu'on lit le passage, on nous dit qu'il s'est donné volontaire, il s'est donné lui-même. Donc, c'est-à-dire volontairement, il s'est donné lui-même. Et il dit que le salut s'obtient par les œuvres. C'est ce que Paul dit? C'est pas dans notre Bible. Donc, Paul, effectivement, est en train de dire, non, le salut ne s'obtient pas par les œuvres, mais le salut s'obtient en Jésus-Christ seulement. C'est-à-dire en mettant en lui notre foi et notre confiance. Mais pendant que Paul est en train de nous dire ça, aussi on nous dit, c'est vrai ce que tu dis, le salut ne s'obtient pas par les œuvres, le salut s'obtient par Jésus-Christ. Mais il est important pour être juste devant Dieu qu'on puisse quand même faire quelques œuvres, faire de bonnes œuvres. Pour être juste devant Dieu, il est important d'apporter de la nourriture tous les vendredis à un pauvre. Pour être juste devant Dieu, il est important de s'abstenir des fois de manger de la viande de porc et plein de choses. Mais ça, c'est ce que Paul dit. Paul lui dit, voici ça, on est salut, mais les judaïsants, ils vont dire, d'accord, nous sommes d'accord avec toi. Mais en plus de ce que tu dis, voici ce qu'il faut ajouter. C'est pour montrer que c'est tellement subtil. C'est pour montrer que souvent, c'est plus facile même de rencontrer quelqu'un qui puisse te dire, moi, je crois que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu mourir à la croix pour mes péchés. C'est mieux de rencontrer une telle personne qui te le dit ouvertement que de vivre avec une personne qui te dit « Oui, Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais pour être juste devant Dieu, voici ce qu'il faut faire. » Et c'est la subtilité qui rentre dans les églises aujourd'hui. Le sens de la liberté que Paul défend. Parce que là, qu'est-ce que les judaïsants font? C'est-à-dire, en plus de la liberté acquise par Christ, que Christ donne, mais il faut mettre encore une chaîne derrière, une chaîne d'œuvre derrière. Et des fois, la réflexion, je dis, mais quand on le fait, on n'est pas loin des clubs de service. Des clubs de service, notamment, on a Rotary Club, Lions Club, qui vont peut-être poser de bonnes actions. En fait, les œuvres accompagnent la grâce. Les œuvres accompagnent la grâce et non l'inverse. Okay. Donc, selon l'objet de l'Évangile, lorsque nous lisons le verset 4, on dit que c'est nous arracher du siècle présent. Et le siècle présent, c'est le système actuel, le système satanique qui domine le monde depuis la chute et qui continuera de le dominer jusqu'au retour du Seigneur. En tant que croyants, nous sommes sauvés du présent siècle mauvais et notre cité est au ciel, selon Philippiens 3, versets 20 à 21. La vie du chrétien fidèle est la vie céleste vécue sur terre. Comment la vie? 1 Jean 5, verset 5, s'il vous plaît. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Amen. Donc celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu a triomphé du monde. Donc ce sont ces éléments-là, effectivement, que Paul est en train de faire ressortir, que nous avons triomphé du monde. On a cette liberté-là en Christ. Mais cette liberté-là ne nous amène pas à vivre comme on veut, mais à donner gloire au Seigneur. Et il montre aussi la source de l'Évangile qui est selon la volonté de Dieu. Et le salut ne résulte donc pas de la volonté de l'homme, mais du plus profond du décret souverain de Dieu lui-même. Amen. Donc ce ne sont pas nos efforts. Paul est en train de dire aux Galates, ce ne sont pas nos efforts qui nous sauvent. Parce que des fois, on va faire des pénitences même. On va aller dans des moments de jeûne et prière, dans des moments de... Je vais même jusqu'à apporter nos dîmes, jusqu'à apporter nos offrandes, parce que des fois, on pense que c'est avec ça qu'on achète le salut. Mais Paul est en train de dire non, que ce n'est pas avec ça qu'on achète le salut. Ce n'est pas avec les pénitences qu'on achète le salut, mais c'est par la foi en Jésus-Christ seulement. Et cette foi-là nous donne la liberté. Voilà, donc, c'est pendant que les judaïsants seraient en train d'ajouter, effectivement, ou de bâtir sur ce fondement qui est déjà bâti, mais de bâtir avec, je dirais, un matériel faux, Paul va venir pour corriger cela. Et au verset 5, on voit la raison pour laquelle Paul le message est donné, le but du message de Paul au verset 5, dans Galates 1, verset 5, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Donc ça, c'est le but du message que Paul apporte ici. Dans ce passage-là, il dit « En toute chose, la gloire est à Dieu. » 1 Corinthiens 10, 31 nous dit ceci, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc ici, Paul montre encore la raison pour laquelle il est important, effectivement, d'apporter ce message-là. Vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre. On n'a plus besoin d'ajouter à cette liberté-là d'autres éléments, d'autres cordes qui vont nous enchaîner. Mais tout ce qu'on fera dans notre liberté, tout ce qu'on fera, faisons-le pour la gloire de Dieu. Amen. Donc, c'est ce que Paul est en train de dire, de rappeler aux Galates. Vous êtes sauvés par la foi en Christ, vous êtes sauvés par la grâce. Ce ne sont pas par les œuvres, mais tout ce que vous allez faire, faites-le pour la gloire de Dieu. Et lorsqu'on fait le parallèle avec les chrétiens de Corinthe, c'est-à-dire les chrétiens de Corinthe, comme on a dit tantôt, eux, ils n'avaient pas un problème de doctrine, mais c'était un problème de vie personnelle. Tandis que les Galates, ils avaient accepté Christ, mais la doctrine commençait par être altérée. La doctrine commençait à se perdre. Or, dès que la doctrine se perd, c'est-à-dire on se perd avec la doctrine. C'est ça, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, est venu mourir pour nos péchés. Non seulement il est mort, mais il est ressuscité pour nous donner la vie. C'est ça, c'est cet élément-là sur lequel il y avait un problème. Parce que après avoir reçu cet enseignement, ils étaient en train de recevoir encore un autre enseignement qui leur disait que c'est, faut faire les œuvres. Faut faire les œuvres en plus de ce que vous avez reçu, faut faire les œuvres. Et je me pose la question, pendant qu'on nous dit, mais faut faire les œuvres, et puis on, si on dit, pourquoi on doit faire les œuvres? Et peut-être le faux docteur répondra, mais vous devrez faire les œuvres parce que Paul, c'est un usurpateur de titre, c'est pas un apôtre. C'était ça les, donc voilà pourquoi Paul, il va défendre son apostolat d'abord, il va l'établir et puis le message, il va le renforcer. C'était ça, le problème, au fait, c'était ça. C'est-à-dire, on a reçu Christ, on est sauvé. Je ne sais pas si on est d'accord avec cet élément-là. Non, parce que les réponses ne sont pas vives. On est déjà assis avec Christ, là. Parce que c'est ça, j'ai accepté le Seigneur, je suis sauvé. C'est-à-dire, j'ai accepté le Seigneur, je serai sauvé. J'ai accepté le Seigneur, je suis sauvé. Parce que quand j'ai accepté le Seigneur, mais je fais les œuvres pour être sauvé. J'ai accepté le Seigneur, je suis sauvé. Je fais les œuvres pour donner gloire à Dieu. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est le fondamental de notre foi. Nous voyons que dans ces versets, Paul couvre les quatre étapes du salut. Donc, le décret souverain de Dieu de sauver l'homme. Deuxièmement, la mort de Christ pour le péché de l'homme. Troisièmement, la désignation d'apôtre pour rendre témoignage. Et quatrièmement, le don de la grâce et la paix de Dieu à ceux qui croient en Jésus-Christ. Amen. La deuxième partie du verset 6 au verset 9. Donc, parlons maintenant des faux docteurs en Christ. Verset 6, il dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. » Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Donc de faux docteurs qui s'introduisent effectivement dans l'Église et puis qui apportent un autre évangile, autre que ce qu'ils avaient déjà reçu. Et le thème docteur fait référence, comme j'ai dit tantôt, au don spirituel. On peut le voir dans 1 Corinthiens 12, 28. Parce que quand on parle de docteur de la loi, quand on parle de docteur de la loi, c'est quelqu'un qui a la connaissance de la loi, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 12, verset 28. Donc au verset 28, on nous parle de troisièmement des docteurs. Donc, Dieu a établi, effectivement, dans l'Église, troisièmement, des docteurs. Donc, il y a des docteurs dans l'Église. Le docteur, ce n'est pas celui ici, dans le thème, ce n'est pas celui qui a fait des études spéciales pour avoir de médecine ou des études séculaires, forcément, pour avoir un niveau de doctorat. Parce qu'effectivement, il y a des docteurs qui vont étudier en théologie, pour être docteur en théologie. Mais ici, on parle de façon spécifique des dons que Dieu accorde à son Église. Donc, le thème docteur, bon, ok, je laissais quelques-uns se apporter une réflexion par rapport à cela. Lorsqu'on parle de docteur ici, de quoi est-ce qu'il s'agit? À quoi est-ce qu'on fait référence? Bon, on a dit au don spirituel. Oui, lorsqu'on parle d'un docteur ici, ok. Mais ici, lorsqu'on parle, déjà même, le fait d'être apôtre, d'être prophète, c'est un don. Voilà, en fait, c'est dans ce cadre-là, c'est un don. Parce que c'est Dieu qui donne à l'Église. Voilà. Et puis, c'est des personnes qui sont appelées de façon spécifique par Dieu lui-même. Voilà. Donc, le docteur, c'est ça, qui a eu ce don-là, capable d'expliquer, capable d'aider l'Église à comprendre certaines Écritures, à comprendre certains textes de la parole de Dieu. Voilà. Donc, c'est ça, c'est lui le docteur. Donc, c'est une personne d'abord, premièrement, mais ici, ça va prendre des caractéristiques parce que le docteur doit être d'abord racheté lui-même par Christ avant d'être docteur. Donc, d'abord, on dit, premièrement, c'est une personne rachetée par le sang de Jésus à qui Dieu fait grâce et donne la capacité d'expliquer les Écritures, donc les doctrines et les prophéties bibliques. Donc, c'est celui-là qu'on va appeler docteur. Donc, Dieu va lui faire un don spécial parce que à chacun a un appel. D'autres seront appelés pour être apôtres, d'autres seront appelés pour être évangélistes. D'autres seront appelés pour être missionnaires, mais Dieu va établir aussi dans l'Église des personnes qu'on va appeler docteur, parce que lui leur accorde ce don. Donc, on a vu le cas, par exemple, d'Esdras qui enseignait la parole au peuple. Voilà, donc le docteur ici, c'est ça. Donc, celui qui a cette capacité, à qui Dieu fait don, Dieu fait grâce de pouvoir être capable de pouvoir enseigner, de pouvoir diriger l'Église par l'enseignement. Donc, en même temps qu'on avait dans l'Église des apôtres, des prophètes, on avait aussi des docteurs pour la compréhension, effectivement, de la parole de Dieu. Et qui est faux docteur de Christ et comment on peut le devenir? Ici, on a vu docteur, celui, donc le faux docteur. Quelles seraient ses caractéristiques lorsqu'on lit un peu le passage qu'on a vu? Dans le test ici, il est ressorti. C'est-à-dire, il sème le trouble. Donc, le faux docteur, un, c'est celui qui n'est pas appelé par Dieu. Et puis, deux, il sème le trouble. Ça, c'est l'une des caractéristiques. Donc, il y a un mot intéressant qui est sorti ici, c'est-à-dire écouter comme il faut. Oui, parce que des fois, il m'arrive d'écouter un peu des serviteurs de Dieu qui prêchent et puis tout ça. Et puis, tout récemment, ce que j'écoutais, je vois un pasteur qui a du charisme, quelqu'un qui parle, il parle et tout ça. Et puis, arrivé un moment, c'est qu'il dit, mais il y a telle personne qui pratique une œuvre satanique, une œuvre de la sorcellerie, mais qu'est-ce qu'on fait de cette personne? Et puis imaginez-vous, c'est visuel, soit à la télévision, à l'Internet, imaginez-vous avec les gestes de l'Église, hein, on la tue. Hein, vous voyez ça avec... c'est judaïque. Je regarde et puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on prie? Je dis, mais quel évangile que nous on annonce alors? Est-ce qu'on prie pour la personne, même mauvaise, pour qu'elle se convertisse, pour donner gloire au Seigneur? Ou bien est-ce qu'on la tue? Ouais. Donc, ça vous dit que des fois, comme elle a dit, écoutez le message qui passe, écoutez le message qui passe, et puis ça, des fois, ça nous clarifie sur certaines positions, et puis même des fois, c'est des personnes assez influentes. Et puis, de façon subtile, ils vont faire, je dirais peut-être même des fois, un lavage de cerveau. Hein. Et puis, tranquillement, ça fait qu'ils ont des adeptes, et puis peut-être des foules. Qui vont haranguer, et puis on pense que là où il y a la foule qui a harangué, c'est là que se trouve la vérité. Or, la vérité se trouve dans la parole de Dieu. Amen. Donc, ça, il est très important, comme on a dit, l'écoute même de la parole lorsqu'elle est prêchée, c'est de l'écouter, mais la référence pour vérifier, effectivement, c'est la référence, c'est pas l'homme de Dieu qui prêche, c'est pas le pasteur qui sera en train de prêcher, c'est même pas la personne qui se met devant vous qui prêche. C'est la référence, c'est la parole de Dieu elle-même. La référence, c'est la parole de Dieu. Voilà. Parce qu'on peut, lire la Bible et puis avoir une mauvaise interprétation d'un test. Mais si je me fonde sur cette mauvaise interprétation de ce test, parce que moi, je suis convaincu que c'est l'interprétation qu'il y a. Mais s'il n'y a pas une autre personne qui regarde avec moi pour dire non, ton interprétation de cette parole, elle n'est pas juste, mais voici ce qu'elle dit. Mes yeux s'ouvrent. Mais s'il n'y a personne qui revienne là-dessus, et puis ça progresse. Donc, c'est ça. Il nous faut le discernement en tant que chrétien. Mais pour avoir le bon discernement, toujours la parole. Parce que c'est elle qui va nous éclairer. C'est elle qui va nous donner de discerner ce qui est juste de ce qui est faux. Toujours la parole. Amen.
Ce que notre frère veut dire, c'est que là, OK, on a une étude, on partage tout le monde. Mais quand c'est un prédicateur en avant, qu'on est tous assis, personne ne parle. Il faut qu'on puisse discerner ce qu'il dit.
C'est ça.
Donc, il faut qu'on lise notre parole, qu'on l'apprenne, pour être capable de dire ce qu'il dit est vrai ou pas. Puis, si on n'est pas d'accord, on va voir les anciens, on va dire qu'est-ce qu'il dit.
Et puis, en ce moment, la correction peut être faite, comme Richard l'a dit tout à l'heure. Donc, la tromperie des faux docteurs, ils reconnaissent probablement que Jésus-Christ a été crucifié et ressuscité. Ils reconnaissent probablement que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais ils enseignent aussi que pour être juste devant Dieu et pour maintenir cette justice qui donne le salut, il faut se conformer à toutes les lois de l'ancienne alliance. Ça, c'était ce que... Mais, c'est-à-dire, oui, mais à la fin, on va dire, mais il faut payer quelque chose pour racheter ton âme. Oui, des fois, c'est ça, on arrive jusqu'à ça. Et du verset 8 au verset 9, nous voyons les avertissements que Paul donne ici, toujours dans Galates. Il dit, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, voilà la destruction. qui soit maudit. Quand je lis ça, il dit, ah, mais c'est fort aussi, hein. Paul, il va pas doucement. Ce qui est intéressant, c'est que il s'inclut lui-même. C'est-à-dire, pour montrer effectivement, il n'est pas là pour des gains sordides. Il n'est pas là pour abuser. Il dit, moi-même, si ce que vous avez reçu, si je viens vous dire autre chose que ça, que moi-même, si quelqu'un d'autre, même un ange, donc il va de gradation. Il dit, moi, si quelqu'un d'autre apprécie un ange, c'est-à-dire si, je dirais un être que vous n'avez pas l'habitude de voir, si Dieu envoie quelqu'un qui vient vous dire, ou bien celui qu'on va appeler envoyé de Dieu, qui vient vous dire non, que l'évangile que vous avez reçu, c'est pas le bon, qu'il soit anathème parce qu'il vient pas de Dieu, certainement c'est un démon qui se fait passer par Dieu. Donc il se déguise en ange de lumière. Mais est-ce que deux personnes peuvent nous rappeler de quel évangile vrai dont parle Paul ici? C'est quoi l'évangile? Il nous parle d'un autre évangile. Est-ce qu'on peut le rappeler encore? J'ai pas entendu.
Jésus-Christ est mort pour nos
péchés. Une seule fois, c'est tout. Et puis on y croit. Il est ressuscité le troisième jour. Vous nous donnez à nous aussi l'espérance de cette résurrection-là. Amen. Donc c'est ça notre évangile. Et c'est sur ça que Paul est en train d'insister. C'est sur ça que Paul est en train de mettre l'accent. Voilà, parce que tout est accompli, tout est fait. Et puis on a plus rien à attendre. Ce qu'on a à attendre, c'est la venue de notre Seigneur. Et puis prier de le servir fidèlement. Quelle attitude avoir face aux faux docteurs? Parce que des fois, on se dit, bon, nous sommes conscients et on sait effectivement que la personne qui est en face de nous est pleine dans l'hérésie. Mais on se dit, bon, OK, on va rester dans le groupe quand même parce qu'on pense qu'en étant dans le groupe, on va aider à s'en sortir, on va éclairer le groupe. Là, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est un risque que nous prenons aussi?
C'est comme si une pomme dirait, moi, je suis saine avec des paquets de pommes pourries autour. Je vais rester saine, puis je vais guérir les autres.
Je vais les contaminer pour qu'elles... C'est plutôt l'inverse hein, qui se fait. Donc, on va lire 2 Jean 7, le verset 7, le verset 10 et le verset 11. Ça sont peut-être quelques attitudes qu'on doit pouvoir avoir, qu'on peut avoir en face de faux enseignants. 2 Jean 10 du même.
Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine... Ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut.
Ça, c'est clair, hein? Donc, quelqu'un vient avec des hérésies, parce que des fois, on se surprend en train de vouloir discuter, convaincre, et la personne cherche à nous convaincre, mais on nous dit, une personne comme ça vient, tu ne la reçois pas carrément. Des fois, c'est tranché, hein? Le verset 11 aussi.
Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres.
Mais généralement, celui qui ne sait pas qu'il est dans l'erreur, parce que s'il est vraiment racheté, il est appelé par Christ réellement, l'Esprit de Dieu parle. Je suis convaincu de ça, l'Esprit de Dieu parle. Dieu va parler à nos cœurs. Non seulement l'Esprit de Dieu va parler, mais autour de toi, il y a des personnes, parce qu'on a vu le cas de Paul, on a dit, il a eu l'approbation des autres apôtres. Voilà. Donc autour de toi, il y a d'autres serviteurs qui vont te dire, ah, pasteur ou un homme de Dieu, en tout cas, quel que soit le nom qu'il porte, mais ce que tu viens de dire là, tu es en train de t'égarer. Des fois, l'orgueil va prendre le dessus. Donc, ça dit, ce qu'on va dire là, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est ce que je veux faire. Des fois aussi, c'est simplement pour des gains sordides. Donc, juste pour détourner, tordre la parole de Dieu et puis aller. Des fois, c'est des personnes peut-être qui n'ont même pas accepté le Seigneur. Mais la parole de Dieu devient, une source de gloire. On a vu que le but du message, en toute chose, fallait donner gloire à Dieu. Voilà. Il y a un élément important, comme on a dit. Il y a l'humilité même d'accepter, même qu'on te fasse des reproches. Ou qu'on te fasse une remarque sur une parole qui a été dite qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que quand tu es serviteur de Dieu, si quand tu dis une parole qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, mais quelqu'un qui viendra te confronter avec, mais il viendra avec la parole de Dieu et te dit, mais des fois, on n'a pas cette humilité-là de s'abaisser puis de comprendre, ah, mais moi, je suis en train de m'égarer. Et puis de revenir pour dire pardon, Seigneur, et puis donne-moi la compréhension de ta parole. Donc, ce sont tous ces éléments-là.
Mais la parole dit dans Jérémie, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme.
En l'homme, c'est ça.
Pour ton appui. C'est assez clair, là. Si tu fais confiance juste au pasteur, puis T'oublies la c'est parole, ça. Là, t'as un méchant problème.
C'est,
pas
c'est
lui,
ça.
C'est pas lui la parole. Oui.
Au pasteur ou à nous-mêmes?
Ou à nous-mêmes.
Ouais.
Donc, c'est aussi, en même temps, ça nous donne l'ouverture de pouvoir accepter aussi quand même des fois qu'on nous fasse des reproches sur peut-être un enseignement qu'on aurait donné ou une compréhension de la parole qu'on croit vraie, mais qui réellement nous égare. Ouais. Pouvoir accepter qu'on en discute et puis qu'on parle pour mieux clarifier les choses. Oui. Ouais.
Ça va des deux bords aussi. Le prédicateur
ouais.
amène le message que Dieu lui a mis à cœur.
Oui.
D'autres, on l'entend, on n'est pas d'accord. Il a raison, mais on ne sait pas. Ah, oui. Mais c'est bon d'aller y parler. Il dit, je ne suis pas d'accord avec ça. Là, lui, il donne vraiment les choses justes.
Oui.
Là, tu changes ton point de vue. Oui. Ça aussi, ça marche. Oui.
C'est ça. On va voir encore une autre attitude à adopter. 1 Timothée 4, verset 6. Ouais. Ouais, c'est vrai. 1 Timothée 4, verset 6.
En exposant cela aux frères, tu seras un bon serviteur du Christ Jésus, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Mais repousse les fables profanes, conte de vieilles femmes, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir.
Amen. Au verset 13, il dit, « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. » Amen. Donc, nous sommes encouragés à la lecture de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui sera la force qui va nous permettre, effectivement, non seulement d'avoir le discernement, mais aussi de pouvoir repousser les fausses doctrines, de repousser les fables profanes. Amen. Merci au Seigneur pour l'étude, et puis de permettre que nous puissions avoir les regards tournés sur sa parole.